Bonjour. Cette fois, c'est vraiment terminé. Les parents de Vincent Lambert annoncent qu'ils arrêtent de se battre pour le maintien de leur fils en vie en se résignant à sa mort, qu'ils jugent désormais inéluctable. C'est un marathon judiciaire de plus de 10 ans qui connaît donc son épilogue. Comment remédier aux pénuries de médicaments qui se multiplient ces derniers mois? La ministre Agnès Buzyn présente un plan d'action qui sera discuté en septembre et qui reprend en partie les propositions des professionnels, des associations de malades et d'un rapport sénatorial dont l'auteur, Jean-Pierre Decolle, est notre invité. L'après Tsipras en Grèce, l'actuel Premier ministre au pouvoir depuis 4 ans et demi a passé ce matin le relais au néolibéral Kyriakos Mitsotakis qui va devoir aller vite pour rassurer à l'intérieur et à l'extérieur de son pays. Dans ce journal également, une messe pour les migrants à Rome où le pape François veut marquer le 6e anniversaire de sa visite à Lampedusa. Un spectacle surgit du passé en Irlande où des paramilitaires veulent relancer la lutte armée pour l'indépendance. Antoine Gignot a pu les rencontrer. On n'oublie pas bien sûr les oraux du bac ce matin pour plus de 100 000 candidats dont certains y sont allés peut-être pour rien. Faustine Calmel nous expliquera. 30 km à l'heure dans toute la commune de Bègles en Gironde. C'est une première pour une commune de cette taille.
Limité à 30 km à l'heure l'ensemble de la ville. Va rallonger un petit peu, quelques dizaines de secondes, à peut-être une minute. Donc il y aura moins de circulation de transit dans Bègles. Et ça va redonner sa vocation initiale aux axes structurants.
Clément Rossignol-Puech, le maire de Bègles, où nous irons faire un tour tout à l'heure, tout doucement bien sûr. Un ex-président sur scène à Avignon, François Hollande est venu parler d'Europe en répondant aux comédiens. Et d'autres personnalités feront de même jusqu'au 14 juillet, c'est ce que nous expliquera Stéphane Capron. Et puis nous rejoindrons bien sûr la route du Tour de France, 3e étape, direction Épinay. La météo, bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
7 départements sont en vigilance orange.
Sur le sud-ouest, pour des orages parfois violents avec de la grêle, du vent, de bonnes quantités de pluie. Ailleurs, c'est plutôt bien ensoleillé avec des températures en baisse, mais encore très élevées sur le sud-est. 35 à 36 degrés entre la basse vallée du Rhône et le Var. 24 à 33 degrés ailleurs. 24 à Épernay pour l'arrivée du Tour de France. Et 21 à 24 degrés près de la Manche.
Le bulletin météo complet, bien sûr, en fin de journal.
France Inter.
Ils ne déposeront plus aucun recours. Les parents de Vincent Lambert ont donc fait savoir ce matin par leur avocat qu'ils arrêtaient de se battre pour le maintien de leur fils en vie, affirmant se résigner à sa mort, désormais inéluctable. Cette fois, c'est terminé, expliquent encore Viviane et Pierre Lambert, qui depuis plus de 10 ans ont tout fait pour s'opposer à l'arrêt des traitements qu'avait fini par proposer l'équipe médicale du CHU de Reims, où Vincent Lambert avait été admis, rappelons-le, en 2008, après un accident de voiture. Il était depuis ce jour tétraplégique dans un état végétatif irréversible. Pour son ancien médecin Éric Carigère, voici venu le temps de le revoir, le temps de l'adieu, il l'a dit tout à l'heure au téléphone de Marie Bernardo.
C'est le temps de le revoir, c'est le temps de l'adieu, donc oui, soulagement, avec une pensée particulière bien sûr pour chacun, mais aussi pour le docteur Sanchez et pour mon équipe, mon ancienne équipe, qui aujourd'hui, au cours de ces dernières semaines, de ces derniers mois, ont tout fait pour que M. Lambert soit entendu dans ses volontés, dans son autonomie. C'est plus facile pour nous tous, à compenser bien sûr quand il s'agit d'un des nôtres, de se battre pour la vie que de laisser la mort arriver. Mais effectivement, c'est une leçon non seulement de sagesse médicale, de sagesse humaine, de sagesse judiciaire aujourd'hui que derrière cette résignation des parents. Et je leur rends aussi hommage parce que c'est jamais facile d'interrompre un combat. Mais vraiment une pensée pour toute cette famille, pour M. Lambert. Tout particulièrement, bien sûr, pour son épouse, sa petite fille, qui vont pouvoir aujourd'hui peut-être non seulement dire au revoir dans des conditions plus sereines à leurs membres de la famille aimée, mais aussi se reconstruire ensuite.
Avant d'arrêter les recours contre l'arrêt des traitements, les parents de Vincent Lambert avaient porté plainte contre le docteur Sanchez du CHU de Reims pour homicide volontaire. Le docteur Sanchez qui a été entendu en audition libre ce week-end par la police judiciaire. Jusqu'au bout donc, la détermination des plaignants aura été sans faille, Daniel Messager. Et s'ils jettent aujourd'hui l'éponge, les parents de Vincent Lambert, c'est qu'ils ne peuvent plus faire autrement, tous les recours étant maintenant épuisés.
Oui, et surtout, plus aucun recours ne pouvait être suspensif, c'est-à-dire enjoindre une reprise des traitements. La décision de la Cour de cassation le 28 juin dernier était très claire, sans renvoi, ce qui fermait la porte à toute autre juridiction. Le processus est bien inéluctable, c'est d'ailleurs le terme qui est employé par les parents. Rien ne peut plus empêcher dans les heures, les jours qui viennent, la mort de Vincent Lambert. Dans une lettre communiquée ce matin à l'AFP, ils disent que cette mort a été imposée, qu'ils se résignent dans la douleur et l'incompréhension, mais aussi dans l'espérance. Ce sont des catholiques fervents. Certes, ils n'avaient donc plus aucun moyen de s'opposer, mais afficher publiquement Politiquement, cette résignation est néanmoins symbolique. Eux qui ont mené une bataille juridique acharnée, tribunal administratif, Conseil d'État, Cour européenne des droits de l'homme, Cour d'appel, Cour de cassation, jamais jusqu'à cette dernière. Il n'avait été possible de mettre un point final. La question se pose d'ailleurs d'une justice déboussolée, car il est arrivé qu'elle contredise la loi, celle qui existe sur la fin de vie et l'obstination déraisonnable, pourtant maintes fois actée par les médecins dans le cas de Vincent Lambert. Une faille sans doute dans cette justice que les parents et leurs avocats auront creusée autant qu'ils le pouvaient avant de se résoudre.
En rappelant que les traitements de Vincent Lambert, en l'occurrence son alimentation artificielle et son hydratation, ont été arrêtés depuis une semaine. À l'instant, le collectif « Je soutiens Vincent » annule un rassemblement prévu ce lundi à Paris. Une chance au premier passage, une chance au rattrapage. Après la publication des résultats du bac vendredi, c'était ce matin le début des oraux pour un peu plus de 100 000 candidats. Les élèves ayant obtenu entre 8 et 10 de moyenne ont choisi deux matières à repasser. Séance de rattrapage très inhabituelle cette année dans un contexte de grève des correcteurs. Des notes provisoires, on le sait, ont été données par certains jurys auxquels les copies d'examen n'avaient pas été fournies. Des lycéens ont été jugés sur leurs notes de contrôle continu. Et pour certains d'entre eux, eh bien les oraux de ce matin compteront peut-être pour du beurre. Situation difficile à comprendre pour beaucoup de familles, Faustine Calmel.
Oui, hein, depuis 8 heures ce matin, les élèves passent leurs oraux et pour se juger sur contrôle continu, mais qui ont eu une bien meilleure note à l'examen, c'est effectivement un rattrapage alors qu'ils n'ont aucun point à rattraper. Mais cela, impossible de le savoir à l'heure actuelle. Les nouveaux jurys de délibération soit sont en cours, soit se réunissent cet après-midi. Quelques poignées d'élèves devraient être concernés dans toute la France. Le ministère n'avance aucun chiffre. Mais au lycée Colbert à Paris, où nous étions vendredi, sur une centaine de lycéens affublés de notes provisoires, seuls 5 vont au rattrapage. Et après avoir examiné les notes réelles, celles de l'examen reçu ce matin, la proviseure assure que cela ne change rien pour ces élèves. Reste que c'est du stress en plus pour tout le monde, dénonce le président de la Fédération de parents d'élèves FCPE, Rodrigo Arenas.
Ça concerne certes pas tous les enseignants, tous les lycéens et tous les établissements de France, mais c'est une partie suffisamment significative pour déstabiliser l'ensemble. Depuis les premiers résultats, nos standards à la FCPE explosent. Nous allons devoir aujourd'hui accompagner les parents qui estiment que leurs enfants ont été lésés pour voir est-ce qu'ils ont été traités justement ou pas face aux décisions administratives qui ont été prises par le ministère de l'Éducation nationale.
Mais il y a aussi le cas de ces lycéens à moins de 8 de moyenne recalés, mais que leur note d'examen va repêcher. Ils pourront passer les oraux dès demain, après seulement une petite soirée de révision.
Et puis à propos de l'expression preneur d'otages utilisée par le président de la République hier pour qualifier les grévistes, le président de l'Association des maires de France, François Baroin, a jugé ce matin qu'il avait eu raison. Il est inconcevable, déclare François Baroin, que des professeurs puissent imaginer ne pas donner les notes d'un élève qui a travaillé toute l'année. Il demande au gouvernement d'être ferme et de prendre des sanctions contre les grévistes. À l'inverse, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, s'indigne en se demandant ce que veut dire prise en otage. Est-ce que ça veut dire, dit-il, que des enseignants seraient des terroristes? Dans la course municipale, toujours l'incertitude pour La République En Marche à Paris, où entre Benjamin Griveaux et Cédric Villani, le cœur d'Emmanuel Macron balance, car c'est bien, oui, le président de la République qui choisit les candidats, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est lui aussi qui choisira le candidat de son parti à Lyon, où là aussi deux marcheurs sont en compétition. L'ex-ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, avec lequel le chef de l'État a dîné hier soir après la finale de foot, et le président de la métropole lyonnaise, David Kimmelfeld, avec lequel il a pris ce matin son petit déjeuner. Christophe Vincent, rien n'a filtré, bien sûr, de ces entretiens, mais on peut imaginer le scénario, une possible distribution des rôles.
Saumon, pigeon et riz de veau avec Gérard Collomb chez Léon de Lyon, café croissant à la préfecture avec David Kimmelfeld. Emmanuel Macron met les pieds dans la cuisine lyonnaise et surveille le feu avant que la marmite ne déborde. Dans le rôle du chef étoilé, le maire redit sa priorité, la métropole et sa proximité avec le président.
Il a dans la tête la façon dont les choses peuvent se passer à Lyon de la meilleure manière possible pour pouvoir gagner. Qu'il fallait trouver un accord, il ne m'a pas déconseillé.
Ou à la métropole ou à la ville?
J'ai parlé de la métropole comme toujours. Le président de la République se prononcera et cela rentrera dans la donne qui sera celle des prochaines municipales.
Installé par Gérard Collomb à la métropole, David Kimmelfeld veut y rester pour l'instant.
On ne peut pas réduire, je crois, le président de la République à un arbitrage électoral. C'est un état d'esprit d'écoute, ce qui m'a permis de parler surtout projet et avenir pour la métropole et pour la ville.
Venu annoncer une quatrième usine Safran à Fézin, Emmanuel Macron a juste effleuré le sujet politique.
Moi, je veux qu'ils agissent ensemble. Et je souhaite qu'on puisse, par le rassemblement, construire cette nouvelle étape. Voilà.
Avec une droite affaiblie, mais à l'affût, le chef de l'État doit jouer le DRH d'En Marche pour conserver ce fief historique de la Macronie. Villeurbanne, Christophe Vincent, France Inter.
Va-t-on manquer de médicaments, de certains médicaments dans les pharmacies de France? On l'a dit, des pénuries sont apparues ces derniers mois sur des produits d'utilisation courante, antibiotiques, vaccins ou anticancéreux. Plus récemment, des difficultés d'approvisionnement ont été constatées sur les corticoïdes. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a présenté un plan d'action, 28 propositions précisément, qui seront débattues en septembre. Parmi elles, comment mieux se coordonner et s'informer entre pharmaciens, comment encourager les médecins à trouver des médicaments de substitution ou encore comment agir au niveau européen. La Fédération française des industries du médicament a fait elle-même ses propositions en suggérant notamment de lister les médicaments qui présentent un intérêt sanitaire et stratégique et pour lesquels des mesures de gestion de la pénurie pourraient être renforcées. Recommandation qui figurait également dans un rapport du Sénat en octobre dernier sur le sujet. Vous en étiez le rapporteur, Jean-Pierre Decool. Bonjour.
Bonjour.
Sénateur indépendant du Nord, expliquez-nous d'abord les raisons de ces pénuries à répétition. Hein. Elles sont multiples, j'imagine.
Oui, depuis quelques années, la situation de pénurie de médicaments et de vaccins, c'est important de préciser les vaccins parce que, à titre d'exemple, il faut 18 mois pour faire un vaccin et quand il y a besoin, eh bien, on ne peut pas être dans l'immédiat. Depuis quelques années, les pénuries de médicaments augmentent de façon exponentielle. Plus de 500 médicaments sont répertoriés régulièrement en pénurie. Il faut donc trouver des dispositifs pour avoir une meilleure transparence.
Et ça fait 10 ans que ça dure. On n'a toujours pas trouvé le remède.
Et ça fait 10 ans que
si
ça dure. Et moi, mon attention avait été attirée par une de mes collaboratrices qui est des étudiants soucieux de leur avenir. Et c'est ce qui est à l'origine de ce rapport. Je crois que la jeunesse est peut-être plus enclin à regarder le contexte mondial. C'est ce qui nous a amené à mener une réflexion avec tous les partenaires, 80 partenaires différents qu'on a rencontrés, qu'on a auditionnés. Et le président de la mission, Ido Dini, et moi-même ne sommes pas issus du monde de la santé. Et je crois que le fait d'avoir un certain détachement dans cette démarche d'écoute, d'audition et ensuite de propositions, montre qu'il y a une nécessité absolue de réagir. Alors, il était temps.
Alors on va venir sur les réactions, mais d'abord les raisons de cette pénurie, c'est quoi la demande des pays émergents, alors, une population vieillissante.
Oui, et puis le fait que la production que j'appellerais locale, la production française, est en peau de chagrin. On a encore un peu plus de 100 laboratoires, alors que dans les pays d'Asie du Sud-Est ou aux USA, ils sont pléthores.
Alors certains prétendent que les labos vendent au plus offrant, vendent surtout des nouveaux médicaments
également,
plus chers que les anciens.
Également. Et puisque le prix des médicaments dans notre pays est organisé en quelque sorte, est réglementé. Mmh. Réglementé, ça aussi c'est une démarche. Je me demandais d'ailleurs à un moment donné si la santé avait encore une éthique. Mmh. Et c'est tout l'âme, c'est tout l'esprit de ce rapport de préserver l'éthique de la santé.
Alors parmi vos propositions vis-à-vis des industriels, vous préconisez une politique de la carotte et du bâton, des aides financières pour ceux qui s'engageraient à fabriquer en France certaines substances, par exemple.
Oui, avec notamment une précision qui est obligatoire, c'est de regarder ça au niveau européen. Je pense qu'on ne peut plus, regarder ça uniquement au niveau local, mais on peut aider le monde de l'entreprise à s'installer et avoir de nouveau une production locale avec une démarche européenne. Et parce qu'aujourd'hui, je pense que nos prérogatives sont limitées. Je n'ai pas de prérogatives pour commander à Bombay.
Et cette liste de médicaments présentant un intérêt sanitaire et stratégique, on pourrait par exemple renforcer le suivi des stocks, sécurité qui seraient sauvegardés.
Alors effectivement, depuis l'initiative du rapport, il existait il y a à peu près un an un dispositif qu'on appelle DP Rupture, c'est-à-dire dispositif entre les professionnels, entre les pharmaciens, afin qu'ils s'informent mutuellement de la connaissance des stocks. C'était déjà une belle avancée. Et on a constaté qu'avec la volonté des pharmaciens, dans ce dispositif d'épée rupture, aujourd'hui, ils sont quasiment à une couverture totale du territoire. Donc, c'était presque une victoire.
Donc
déjà.
Ça peut marcher.
Il y avait une sensibilisation. Et on était en train de recréer un climat de confiance pour instaurer une meilleure transparence avec des plateformes d'écoute, d'échange entre les différents niveaux de l'organisation, du producteur jusqu'au distributeur.
Donc il faut relancer ça.
Il faut relancer et soutenir.
Jean-Pierre Decool, sénateur indépendant du Nord, merci beaucoup.
France Inter, le journal de 13h. Yves Decamp.
En Grèce, la droite, le retour. 40% des voix pour les conservateurs de Nouvelle Démocratie, 31,5% pour Syriza, le parti du Premier ministre Alexis Tsipras, qui passe donc le relais ce lundi après 4,5 ans au pouvoir au néolibéral Kyriakos Mitsotakis, un nom très connu des Grecs d'ailleurs. Son père fut Premier ministre, sa sœur ministre des Affaires étrangères. Savoir ce qu'il va pouvoir changer vraiment dans les orientations économiques du pays. Marie-Pierre Véraud, vous avez suivi ces élections législatives en Grèce où la passation de pouvoir a été faite ce matin, très rapidement donc. Que va pouvoir faire le nouveau Premier ministre pour rassurer à l'intérieur comme à l'extérieur de son pays ?
Eh bien déjà, il dispose d'un capital indéniable, la majorité absolue à l'Assemblée qui va lui permettre de gouverner seul sans avoir à négocier, une visibilité, une stabilité de nature à rassurer les marchés et les investisseurs qu'il souhaite reconquérir. Ensuite, en se gardant de toute arrogance pour ne pas heurter une population meurtrie par la crise, Kyriakos Mitsotakis a pris soin de s'adresser à chaque Grec hier soir. Il a promis de restaurer l'unité du pays et de ramener l'espoir, un discours qui se voulait rassembleur. Enfin, en allant vite, pour mettre en œuvre ses engagements de campagne et faire voter des lois emblématiques dès cet été et montrer à l'intérieur comme à l'extérieur qu'il est un partenaire fiable, qu'il n'a pas fait, lui, de promesses en l'air. Vous le disiez, il vient de prêter serment au palais, puis passation de pouvoir. L'annonce du nouveau gouvernement est prévue ce soir. Ce devrait être une équipe resserrée, avec un équilibre entre technocrates et profils plus politiques. Premier conseil des ministres demain ou mercredi, premier texte au Parlement dès cet été.
Et donc rassuré, on l'a compris, c'est la priorité, mais quelle pourrait être cette toute première mesure ?
Eh bien d'abord des réformes très attendues par les Grecs pour soulager la pression fiscale, baisse de la TVA, des impôts fonciers, des impôts sur les sociétés, la sécurité ensuite, le code pénal devrait être durci dans les prochaines semaines, et puis pour relancer l'économie et les investissements, la réforme de l'administration grecque, la bureaucratie, c'est un peu un serpent de mer ici, mais Mitsotakis a promis une informatisation rapide afin de lutter contre la corruption et le clientélisme qui ont fait tant de mal au pays.
Marie-Pierre Véraud à Athènes avec Eric Audra. À Rome, une messe pour les migrants. Fidèle à ses habitudes, le pape François a voulu marquer ce matin le 6e anniversaire de sa visite à Lampedusa, d'autant plus important cette année que le port de Lampedusa est désormais fermé aux migrants malgré le passage en force de certains navires humanitaires. On l'a vu ce week-end encore. L'Italie et l'Europe entière, à l'exception de l'Espagne, n'accueillent plus qu'au compte-gouttes ceux qui risquent leur vie en Méditerranée. Incompréhensible et insupportable pour le souverain pontife, qui recevait ce matin en l'église Saint-Pierre des réfugiés, des migrants et tous ceux qui les aident, Marie Duhamel.
Il ne s'agit pas seulement de questions sociales ou migratoires. Les migrants sont des personnes et elles sont aujourd'hui le symbole de tous les exclus de la société globalisée. 6 ans après sa visite sur l'île sicilienne de Lampedusa, le pape a ouvert les portes de la basilique vaticane à des dizaines de migrants ce matin. Ces hommes et femmes abandonnés dans le désert, torturés dans des camps de détention qui défient les flots d'une mer impétueuse. Les périphéries de nos villes, explique François, sont peuplées de ces personnes exclues. Elles doivent être aidées, martèle-t-il. Jésus a en effet révélé à ses disciples la nécessité d'une option préférentielle pour les derniers de la société. Ils doivent être mis à la première place de la charité. Jamais le pape ne commente la politique italienne, mais alors que le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, maintient son blocus en mer et souhaite voir ce matin ce qui le force derrière les barreaux, François répète qu'il incombe à chacun de consoler les maux des migrants, assouvir leur soif et faim de justice. Il s'agit d'une grande responsabilité, reconnaît-il, mais dont personne ne peut s'exonérer. Rome, Marie Duhamel, France Inter.
Un spectacle surgit du passé en Irlande ce week-end. C'était hier après-midi près de Dublin, des groupes paramilitaires républicains réunis en uniforme autour d'une tombe, la tombe du fondateur du courant indépendantiste irlandais. Il n'en fallait pas plus pour que ressurgisse le spectre de l'IRA et d'un conflit qui a fait plus de 3000 morts. Pour ces paramilitaires que vous avez rencontrés, bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de France Inter à Londres. Pour eux, les accords de paix de 98 sont nuls et non avenus. On va y revenir. Dites-nous d'abord comment vous avez pu les rencontrer, sachant qu'ils parlent très peu, voire jamais aux médias.
Oui, ils cherchent essentiellement l'anonymat, mais c'est toute leur ambiguïté. Tout en essayant de rester discret, ils se protègent d'ailleurs derrière des lunettes fumées. Il n'est impossible de voir leur visage. Et en même temps, ils participent à des rassemblements avec tambours de guerre, fifres. Ils défilent hier en marchant au pas. Avant de les rencontrer, il a fallu faire connaissance avec d'autres indépendantistes, d'anciens poseurs de bombes, d'anciens prisonniers, d'anciens membres de l'IRA historique. Et puis il a fallu aussi et surtout peut-être une rencontre avec les dirigeants de Sirou, la vitrine politique du mouvement qui a été créée en 2016 et qui a des liens assez proches avec l'organisation. Ses dirigeants défendent l'idée d'une lutte armée contre ce qu'ils appellent les forces d'occupation britanniques.
Alors leur retour sur le devant de la scène est lié bien sûr au Brexit, mais que veulent-ils précisément? La reprise de la lutte armée pour l'unification d'Irlande, c'est ça?
Absolument, ils le disent d'ailleurs ouvertement, le Brexit c'est une opportunité pour eux, pour les républicains indépendantistes, de se faire entendre. Leur raisonnement est simple, s'il y a un problème avec la frontière irlandaise, s'il y a un problème avec cette sortie de l'Union européenne que le Royaume-Uni n'arrive pas à gérer, c'est parce qu'il ne devrait pas y avoir de frontière du tout. Ils continuent de présenter cette présence britannique comme une occupation insupportable de leur territoire et ils continuent de légitimer les actions violentes. Sirou s'est d'ailleurs excusé officiellement lors du meurtre de la journaliste Lyra McKee au mois d'avril et il y a eu cette année plusieurs tentatives d'attentats à la voiture et au colis piégé. La ligne est claire, quel que soit le prochain Premier ministre, quelle que soit la forme que va prendre le Brexit, les actions violentes vont continuer.
Antoine Gignot à Londres, 18 000 emplois de moins à la Deutsche Bank. Le conseil de surveillance de la première banque allemande a confirmé le plan de restructuration qui lui coûtera plus de 7 milliards d'euros. Après les 6 000 emplois déjà supprimés l'année dernière, les effectifs seront ramenés d'ici 3 ans à un peu plus de 70 000 personnes. C'est le prix à payer pour renouer avec les bénéfices, expliquent les patrons de la Deutsche Bank, qui annonce aussi une réduction de ses activités d'investissement sur le marché obligataire. Et pour ce faire, devrait être créé ce qu'on appelle une structure de défaisance où seront versés quelques 74 milliards d'euros d'actifs à risque, autrement dit des actifs qui seront mis à part, des actifs dont personne ne voudra et dont on se demande ce qu'ils font là, Laurent Kramer. Les leçons de la crise financière de 2008 n'auraient donc pas été complètement tirées.
Malgré la crise, la Deutsche Bank a-t-elle continué à jouer avec le feu? Spéculation sur les marchés avec des produits dérivés sur le long terme, hautement spéculatifs, blanchiment d'argent dans les paradis fiscaux, la création de cette bad bank. Le montant de cette nouvelle structure pour se défaire des actifs toxiques, c'est 74 milliards d'euros d'actifs indésirables, répond à ces questions. La Deutsche Bank ne s'est jamais relevée de la crise des subprimes et n'a visiblement pas non plus été capable de se débarrasser de tous ces actifs spéculatifs accumulés depuis la crise malgré la surveillance de la BCE et les menaces d'amende par les autorités américaines. Les analystes évoquent le manque de transparence de la banque allemande accumulant les erreurs, les maladresses, niant les rumeurs, incapable de trouver une autre grande banque pour s'associer avec elle. La Deutsche Bank n'avait d'autre choix que de créer ce nouvel électrochoc pour restaurer la confiance dans l'institution, placer ses actifs toxiques dans cette structure de défaisance, faire sortir ses produits spéculatifs de son bilan pour faire remonter sa valeur en bourse. Entre 2012 et 2016, la Deutsche Bank a déjà recyclé ainsi 128 milliards d'euros d'actifs pourris de la même façon.
Laurent Kramer. Un ex-président sur scène au Festival d'Avignon, ce n'est pas une reconversion, non, juste une invitation pour François Hollande, invité à répondre, c'était samedi soir, aux questions des comédiens, dans une pièce intitulée « Nous, l'Europe, banquet des peuples », pièce de Roland Hozet sur un texte de Laurent Godet. L'ex-président de la République a parlé de sa vision de l'Union pendant un quart d'heure, dans un rôle qu'il connaissait bien sûr déjà, Stéphane Capron.
C'est la France qui m'a permis de devenir européen.
Au milieu des comédiens, François Hollande a tombé la cravate et parle de sa vision de l'Europe. Le romancier Laurent Godet a écrit un long poème qui laisse la place tous les soirs à une personnalité. François Hollande s'est prêté de bonne grâce à cet exercice pour la première.
J'ai senti à la fois une surprise, une interrogation et un peu d'inquiétude en se disant « mais qu'est-ce qu'il va faire exactement ?» Mais je voulais être sûr qu'on comprenne bien que je n'étais pas un acteur, que je ne devenais pas en tant qu'acteur et que dans le spectacle, il soit bien marqué une rupture entre ce qui était le jeu, ce qui était le texte de Laurent Godet, la mise en scène, et ce qui était ma participation.
Roland Ouzé, le metteur en scène, souhaite confronter la parole politique à la parole citoyenne.
C'est un peu comme un théâtre antique, un théâtre premier, où le représentant de la cité vient à un moment donné dire, en vis-à-vis de la troupe d'acteurs et du public, des éléments qui peuvent s'inclure dans la narration sur la thématique de l'Europe.
D'autres personnalités, dont Enrico Letta, l'ancien président du Conseil des ministres italiens, vont participer au spectacle qui, tous les soirs, se termine dans un grand élan de communion, le public étant invité à danser sur scène.
Nous, l'Europe, banquet des peuples, c'est jusqu'au 14 juillet à Avignon, avec donc une personnalité invitée sur scène tous les soirs. Allez, pas plus de 30 à l'heure à Bègles, dans tout Bègles. C'est une première en France dans une commune de cette taille, commune de la banlieue de Bordeaux, qui a donc réduit depuis ce matin la vitesse autorisée à 30 km/h dans la totalité de ses rues principales et secondaires. Stéphanie Brossard à Bègles.
Janine, par exemple, ne voit pas bien ce que ça va changer. Elle habite une rue qui était déjà en zone 30 et dit-elle...
Quand ils voyaient le feu qui est vert, poum, il fonce. Ce matin encore, j'ai discuté avec une dame devant chez moi, ça ne changera rien. Donc.
Christian, lui, est automobiliste et cycliste.
C'est ridicule, 30 à l'heure partout. C'est bientôt, on poussera les voitures si ça continue. C'est juste pour mettre des PV, ramasser de l'argent.
À partir de la rentrée seulement, indique la mairie, qui veut sécuriser piétons et vélos.
Mais il ferait mieux d'abord de voir tous les gens qui sont garés sur les pistes cyclables. Moi qui fais du vélo, on est obligé de rouler sur la route et là on se fait klaxonner par les automobilistes. Donc c'est un peu fort de café quand même.
C'est surtout symbolique de la part d'un maire écologiste, selon Dominique, pas convaincu non plus que ça puisse contrecarrer l'application Waze, et qui fait de Bègles l'un de ses itinéraires bis préférés en cas de bouchon sur la rocade. Ça va surtout, dit-il, avoir un autre effet pervers, envoyer les voitures chez les voisins.
Les maux de la ville de Bègles doivent pas être pensés que par les Béglés. Il me semble que Bordeaux Métropole a du travail à faire et repenser au contournement, ça me paraîtrait quand même quelque chose de beaucoup plus subtil et intelligent pour éviter ce genre de choses qui font qu'effectivement les gens passent par des itinéraires bis et qui ne devraient peut-être pas les utiliser aujourd'hui.
Bègles se donne un an pour faire le bilan de cette opération Ville 30.
Et pour le maire d'Europe Écologie Les Verts, comme ça, à 30 à l'heure partout, c'est plus simple et plus efficace. Allez, pas plus de 30 non plus sur les routes du Tour de France, en tout cas pour l'instant. Après le prologue à Bruxelles et le contre-la-montre par équipe, le peloton quitte aujourd'hui la Belgique, direction Épernay. Le départ à Binche a été donné il y a moins d'une heure, Fanny Lechevestrier.
Ah oui, mais ce peloton va déjà extrêmement vite, près de 47 km/h de moyenne pour la première heure de course et les premiers kilomètres du Tour 2019 en France. Après avoir quitté Binche, effectivement ce midi, c'est à Jeumont, la ville du champion du monde de football, Benjamin Pavard, que le peloton est entré en France. Et il y a encore une fois beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de drapeaux au bord des routes. Et pour le moment, 5 coureurs échappés, donc 4 Français, Stéphane Rossetto, Paul Ourselin, Johan Ofredo, que l'on retrouverait très régulièrement aux premières places. Et puis Anthony Delaplace, ses 5 coureurs avec Tim Wellens, le Belge, compte 5 minutes d'avance sur le peloton, emmené eh bien par la Jumbo, l'équipe du maillot jaune Mike Tennissen. Attention, les difficultés du jour ne sont pas encore là. Elles sont concentrées dans les 40 derniers kilomètres. Et on attend, vous le savez, il y a un nom qui revient partout, c'est Julien Alaphilippe. Peut-être la première victoire d'étape sur ce Tour de France pour Julien Alaphilippe. Mais on n'en est pas encore là. Il reste encore eh bien, plus de 180 km à parcourir.
Et attention, en traversant les villages, quand même pas plus de 50. En bref, un pompier volontaire mis en examen et écroué dans l'Hérault. Il serait responsable d'au moins 13 incendies déclenchés entre 2017 et 2019. Et puis un petit garçon d'un an dans un état très grave dans le Loiret. Il avait été oublié dans une voiture par ses parents qui, bien sûr, ont été placés en garde à vue. Ce qui nous amène à la météo, attention aux orages. 7 départements du sud-ouest en vigilance orange, Élodie Calac.
La météo, avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Entre les Pyrénées, les plaines du sud-ouest et le Languedoc-Roussillon, des orages circulent, des orages parfois violents avec de la grêle, du vent et beaucoup de pluie en peu de temps, soyez prudents. Ce temps va persister ce soir et cette nuit. Des orages seront encore au programme demain, parfois costauds par endroits le matin. Partout ailleurs, cet après-midi, c'est souvent très ensoleillé, un peu plus de nuages au nord de la Seine, vers le nord-est également avec une averse possible sur le Jura, sur les Vosges. Les températures baissent au nord, mais ça reste chaud sur le centre et même très chaud sur le sud-est. Encore 36 degrés à Nice. Nîmes, 35 à Marseille, 31 à Toulouse, Bordeaux, Lyon, 28 degrés à Angers et Nevers, 25 à Paris, 24 à Brest ou Nancy et 21 à Lille.